Le faiseur de monde présente le nouveau cycle de Yom, chronologie, première partie. Par convention, nous prendrons en année 0 l'année de naissance du Viti Inkan. -312, naissance en Hongrie de Peter Arnitz. Certains le connaissent aussi sous le nom de Piotr Arnitz, car son nom est orthographié à la mode slave, P-I-O-T-R, Peter. Nous reviendrons sur ce personnage clé. 12 ans plus tard, -300. Naissance de Anton Tran, aux États-Unis. Puis encore un bond dans le temps, -268, pour commencer 60 ans particulièrement denses, avec la naissance d'Ernest Arendisch, l'auteur du cycle de Yom. 3 ans plus tard, -265, la séparation d'Ange Bashan, le tremblement de terre qui va faire de cette presqu'île une île complète. Et la même année, la découverte officielle par Peter Arnitz de ce que l'on va appeler le réseau Arnitz. Loin de résoudre l'énigme de la matière noire, qui fait s'écharper les scientifiques depuis des dizaines d'années, et qui a donné la naissance à l'énergie noire, une autre part du mystère, Peter Arnitz découvre donc ce que l'on va appeler le réseau Arnitz. Des anomalies spatio-temporelles qui lient chaque objet de l'espace, que ce soit une étoile ou une planète, au point d'origine du Big Bang. Comme si chacune était capable, en remontant le temps, de revenir à la matière d'origine du Big Bang qui l'a créé au moment de l'explosion originelle. Tel un gigantesque soleil, l'univers est au cœur d'un énorme faisceau de rayons dont l'origine est l'origine de l'univers, le Big Bang, et qui s'en va vers l'infini. Sur ces faisceaux, comme une succession de perles, tous les objets massifs qui existent dans l'univers, les planètes tout comme les étoiles. Cette découverte fondamentale sera suivie 18 ans plus tard, par l'invention de la technologie Tran, par Anton Tran, qui va trouver le moyen pour des vaisseaux spatiaux d'utiliser ces anomalies spatio-temporelles pour pouvoir se projeter dans l'espace. Après avoir colonisé le système solaire, l'homme allait pouvoir coloniser la galaxie. Rendant à César ce qui appartient à César. La découverte fondamentale est bien celle de Peter Arnitz, presque plus importante que celle de la relativité par Einstein au XXe siècle. Malheureusement, ce n'est pas son nom qui est resté associé à ces vaisseaux partant vers le lointain. On continue à parler de réseau Arnitz, tout au moins entre techniciens et spécialistes, et le grand public parle de la technologie Tran. Tous ceux qui, régulièrement, veulent corriger ceci, se retrouvent face à trois principales raisons. Tout d'abord, on va plutôt, dans le grand public, s'intéresser à la science appliquée, plutôt qu'à la science fondamentale. Ensuite, cela peut aussi avoir un poids. Anton Tran est américain. Peter Arnitz était hongrois. L'importance de ces pays n'est évidemment pas la même. Et puis, ce qui a sans doute pesé le plus. Arnitz est malheureusement un nom déjà connu pour un médecin, un russe, qui a mis en évidence la maladie de certains humains liée au rayonnement cosmique, entre autres lors des premières colonisations sur la planète Mars. La technologie Tran permet d'ouvrir l'avenir puisqu'il ouvre l'univers. C'était sans doute difficile d'y associer le nom d'une maladie qui, au contraire, allait poser des problèmes aux colons. Beaucoup considèrent donc que c'est l'année -247, le point de bascule de l'humanité, qui va lui permettre de coloniser la galaxie après avoir colonisé le système solaire. De saut de puce en saut de puce, en utilisant la technologie Tran pour suivre dans un sens ou dans l'autre les réseaux Arnitz, on va ainsi pouvoir découvrir de nouveaux systèmes solaires, de nouvelles planètes et y installer des nouvelles bases vie. Il ne faudra attendre qu'une grosse dizaine d'années, en -234, pour que la colonisation débute réellement avec l'envoi des premiers vaisseaux. Entre-temps, apparaît sur notre scène Ernest Arendisch, qui effectue sa première publication, en -245, à 23 ans, et qui connaît le succès dès ses 31 ans, en -237. L'un de ses cycles les plus connus démarrera 2 ans plus tard, en -235, Les mauvaises herbes, avec 5 tomes annoncés. Le premier en -235, le deuxième en -233, le troisième en -232 et le quatrième en -231. Un cycle inachevé qui en fait aussi vraisemblablement le fait qu'il soit aussi connu. Certains supposent que le début de la colonisation, au milieu de ce cycle, l'emmènera vers son autre cycle, celui dont nous avons déjà parlé, le cycle de Yom, dont le premier tome, Cafeté, est publié en -229. -229, une autre date clé pour nous, la naissance de Oussem Ouedraogo. C'est presque symbolique que ces deux-là soient nés la même année. le livre Cafeté et Oussem. Oussem est l'aïeul de Clémence Hansrider, dont nous allons parler plus tard. C'est de lui que Clément dira qu'il a été le premier témoin, le premier Vitiinkan, d'une certaine manière, et dont il est si fier. Nous allons le voir, c'est aussi le créateur, en réalité, de tout ce mythe autour du cycle de Yom, et de tout ce qui a pu en découler, que ça soit mythologique ou politique. Oussem Ouedraogo est né au Mali. Son père est un griot, sa mère une sorte de prêtresse animiste. Il va donc porter en lui ces deux héritages, une sorte de pouvoir lié à la nature et la notion de conte et de l'héritage culturel de tout un peuple. Les registres de police de l'époque parlent déjà d'une sorte d'arnaqueur se faisant passer pour un médium, ce que ses descendants nieront en expliquant qu'il était déjà à la base d'une action politique liée à la nature, ce que l'on appelait les éco-activistes, ce qui allait plus tard devenir les éco-terroristes. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de juger la manière dont Oussem Ouedraogo trouvait les moyens de vivre à l'époque. On peut en tout cas déjà entendre dans cette histoire les problèmes qu'il pouvait avoir avec le pouvoir, que ça soit lié à ses activités illégales, ou déjà à une ouverture d'esprit plus grande vers la nature et le fait de vouloir la défendre. En moins de 128, Ernest Arendish publie « Crépuscule », le deuxième livre du cycle de Yom. En cela, il poursuit le rythme d'un livre par an, rythme qu'il avait presque respecté au moment des mauvaises herbes. Moins 227, une année faste nous concernant. Tout d'abord, à Angebashan, la naissance d'Algorine, développée par Peter Rolleter pour le clan Enchi. Ensuite, la naissance, en Inde, de Kapali Nilmani. Nous y reviendrons. Enfin, poursuivant son rythme d'écriture, Ernest Arendish produit Apocalypse, troisième tome du cycle de Yom, qui sera non seulement censuré, mais même effacé de la mémoire, pratiquement dès sa sortie. Ça n'est pourtant qu'un livre de fiction, d'où toute la mythification qui a pu se faire par la suite sur ce que représentait réellement le contenu de ce livre pour qu'il fasse aussi peur à l'intégralité des pouvoirs du monde de l'époque. Il semble de même qu'on ait effacé Ernest Arendish de la mémoire, puisqu'à partir de moins 228 et la publication de son livre Crépuscule, on n'en entend plus jamais parler. Un cycle de 3 tomes où il n'y aurait donc eu que 2 publications. Les fans se disant que, comme pour mauvaises herbes, il avait annoncé 3 tomes, qu'il n'y en avait que 2, un cycle inachevé. Peut-être se sont-ils ensuite souciés de la création d'un nouveau cycle, ou de la disparition de l'auteur, on n'en sait pas plus. 4 ans plus tard, moins 223, assassinat de Peter Rolleter, sur une planète éloignée, par le clan Enchli, inquiet de voir Peter créer une société informatique, et peut-être soupçonneux que ce dernier ne veuille exploiter Algorine alors qu'il était censé ne même pas en avoir de copie. On ne saura dès lors jamais si c'était le cas. 9 ans plus tard, autre année riche nous concernant. Le lancement par Enchli d'un service basé sur Algorine. Il s'agit bien d'un service. Le code ne sort pas de leur serveur basé à Angebashan. Algorine n'est donc pas diffusé. En revanche, tous les éditeurs sur base Virzem peuvent l'utiliser pour corriger les bugs. Et c'est cette même année que Oussem Ouedraogo découvre le cycle de Yom, dans son ensemble, avec le fameux 3e livre, Apocalypse, dont visiblement toutes les versions n'ont pas été détruites, même s'il est déjà difficile à cette époque de savoir s'il a eu réellement le livre en main ou si c'est quelqu'un qui lui a raconté. On verra plus tard que de toute façon, sur la mythification qui est en cours, ça ne fait pas grande différence. En tout cas, cette date, qui est révélée par Oussem lui-même, sinon comment la connaître, est une date de basculement pour lui, un petit peu comme si il allait réellement passer de éco-activiste à éco-terroriste. Apocalypse devient le socle sur lequel il construit une nouvelle théorie qu'il puise à la fois dans l'héritage de son père, de griot, dans l'héritage de sa mère, en tant que prêtresse animiste, lui-même devenu prêtre animiste, et de plus en plus en rupture avec le pouvoir et avec la manière dont les choses vont sur la planète. Nous sommes 20 ans après le début de la colonisation, les débats sur le fait que l'humain a pourri la planète Terre et va maintenant aller pourrir d'autres endroits dans l'univers font rage. C'est effectivement à ce moment-là que les premiers attentats contre les vaisseaux commencent à apparaître et que l'on commence à parler d'écoterrorisme, même si, que ça soit pour le grand public ou pour le pouvoir, le terme n'a pas encore complètement remplacé le terme d'éco-activiste. La tradition relate les 6 années qui suivent comme le fait pour Oussem de s'enfoncer de plus en plus dans la clandestinité, étant de plus en plus recherché par les différentes polices, par les différents pouvoirs en place, le nombre de personnes l'écoutant et commençant à défendre ses idées, grandissant sans cesse. Sans vouloir remettre en cause le travail intellectuel extraordinaire de Oussem Ouédraogo, on peut légitimement douter de cette notoriété ou de ce nouveau statut de gourou, car on n'en trouve aucune trace à l'époque. De manière beaucoup plus prosaïque, peut-être développe-t-il des activités de plus en plus extrêmes, faisant en sorte que la plupart des pays d'Afrique le traquent, le chassent et finissent par le désigner persona non grata. En moins 208, il part en Inde. Est-ce un exil, une fuite ou un voyage initiatique, comme il en a souvent existé, l'Inde étant de plus en plus en avance sur le côté éco-activisme? Difficile de le dire. En tout cas, il ne reviendra jamais. Cette même année, il rencontre Kapa Ali Nilmani, et il se marie. Comme souvent, les chiffres ayant une grande importance, il se marie très exactement 60 ans après la naissance d'Ernest Arendiche. Un exil, la découverte d'une femme et un mariage, pouvant paraître relativement précipité en moins d'1 an, on peut fort bien imaginer qu'il était déjà en Inde depuis 1 ou 2 ans. C'est en effet en moins 210 que l'on trouve les derniers rapports en Afrique d'une expulsion d'un des pays limitrophes du Mali. Comme nous l'avons dit précédemment, on termine donc ainsi un cycle de 60 ans dans lequel, d'une certaine manière, tous les acteurs sont entrés en scène. Ne reste plus qu'à créer le mythe, ce que va faire Oussem, en grande partie grâce à son épouse. On ne sait pas grand-chose de Kapa Ali Nilmani, tout comme on ne saura plus grand-chose de sa vie ou de celle de Oussem, à part la naissance de leur fille, en moins 201. On sait néanmoins, par le discours que Clem Hansrider va pouvoir tenir plus de 200 ans plus tard, qu'elle a eu une immense influence sur la création du mythe et tout ce qui a pu être ensuite raconté par Oussem Ouédraogo, ses adeptes ou ses descendants, à commencer par cette notion de Trimurti, le fait d'ancrer la pensée à 3 points différents au lieu de 2, comme on le faisait globalement suite au manichéisme dans tout l'Occident qui avait imposé cette vision du monde à l'intégralité de la planète, le bien, le mal. La pensée hindouiste, d'une certaine manière, est plus riche. On ne parle pas de 2, mais de 3 piliers. La syncrétisation du mythe de Gaïa, récupérée par Oussem alors qu'elle n'était pas à l'origine de son héritage culturel africain, en est un exemple. Il y a les mauvais hommes, les hommes bons et respectueux de Gaïa, la 3e entité. De là aussi viendra les 3 éléments du destin, l'œil, la main, la roue, Viti Inkan, Viti Inkai, Viti Insakalam. Enfin, l'influence de Kapa Ali est évidente, ne serait-ce que par l'utilisation de tous ces termes qui viennent du tamoul. En tout cas, ceux autour de cette trilogie du destin. Car ce qui a été raconté ensuite sur le cycle de l'Yom lui-même est une pure invention. Le premier titre, Kafté, dont on est sûr puisque le livre a été retrouvé. On ne sait pas ce que cela veut dire. Et en tamoul, cela ne veut absolument pas dire aube. Oussem a certainement mis aube pour faire le pendant à crépuscule. Cela collait mieux à la fois avec ce qu'il voulait que l'histoire d'Ernest Arendiche raconte, mais aussi avec cette référence à la langue tamoule qui, à l'époque, était en pointe pour tous les éco-activistes, car la plupart des grands esprits de ce domaine étaient tamoules, et la plupart des grands livres qui servaient de base à cette réflexion étaient écrits en tamoule. Si l'on veut absolument rechercher quelque chose venant du sous-continent indien, alors il aurait pu aller chercher Safti. Évidemment, c'est un petit peu loin de Kafté, mais bon, pour un anglo-saxon, Safti, Kafté. Safti signifie « cristal » en langue tégoulou, qui est effectivement une langue du sous-continent indien, proche de la zone où l'on parle tamoul. Visiblement, la tradition orale fait porter à Oussem cette erreur de traduction ou cette recherche d'un terme caché qu'il n'a certainement pas porté lui-même, vivant avec une tamoule. De la même manière, le fait que Redust pourrait venir du tamoul et aurait été transformé ou mal compris ou mal orthographié par Ernest Arendiche est une pure hypothèse. Aucun mot en tamoul ne semble se rapprocher du terme Redust. La tradition orale, auquel se réfère sans arrêt Clemence Hansrider, est donc non seulement basée sur des hypothèses, mais aussi sur des erreurs, Ce qui peut nous faire penser que le mythe du cycle de Yom n'a pas forcément été créé sur le moment, mais a pu, au fil des décennies, être transformé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, une sorte d'icône mythique pour les éco-terroristes. Les esprits les plus critiques peuvent donc considérer qu'à la base, il s'agissait simplement d'une œuvre fictionnelle. Il est vrai néanmoins que l'effacement du livre Apocalypse ouvre toutes les hypothèses à tous les complotistes possibles. Le point d'orgue de tout ceci, en -185, étant ce que l'histoire a retenu comme la Grande Destruction. Une année cataclysmique de typhons, de tremblements de terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques qui, entre autres, va totalement raser Angébashan de la carte. Angébashan et le clan Enshli, et donc Algorin. Fin du prologue. Tous les acteurs mythiques sont en place. La technologie a permis à l'homme de se répandre dans l'univers, pendant que ce que l'on a fait du cycle de Yom commençait à saper sa bonne conscience de déployer son intelligence dans toute la galaxie, à l'égide de ce que pensaient ceux qui sont depuis devenus des éco-terroristes, terme générique qui cache à la fois ceux qui ont recours à la violence ou leurs représentants politiques. Il ne reste plus qu'à faire un bond de 185 années en avant pour arriver à la date clé de notre histoire, la naissance de Lun Eremidies, la naissance du Viking Khan.